On est autour du numéro d'octobre du Monde diplomatique et on va commencer par parler, de façon très originale, de George Bush. Très original parce qu'on a quelqu'un qui le soutient, hein, ici, au Monde diplomatique, c'est Serge Halimi, qui n'en dit pas que du mal.
Oui, on parle de cette élection parce que c'est l'une de celles qui risque d'être le plus intéressante, puisque il y a aussi les élections législatives aux États-Unis le 2 novembre. Mais depuis quelques années, il y a un taux de renouvellement qui est presque nul, puisque au Congrès des États-Unis, la dernière fois, 98,5% des sortants avaient été réélus. Alors, il faut, ça c'est une notion qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Il y a une chambre presque permanente qui installe son avantage financier, qui installe grâce à des redécoupages très habiles de circonscriptions sa pérennité en place. Donc reste l'élection présidentielle et il y a ce paradoxe qu'on a déjà évoqué quelques fois qui tient au fait que des catégories sociales qui ont été les principales victimes des politiques républicaines et de celles de Bush en particulier votent néanmoins républicains. Et dans le numéro du Monde diplomatique donc qui sort ce mois-ci, j'ai réalisé une enquête en Virginie-Occidentale pour voir... pour trouver une espèce d'explication, puisque lors de la dernière élection présidentielle, la Virginie-Occidentale, bastion démocrate depuis 60 ans, a, à la surprise générale, voté en faveur de l'actuel président, George W. Bush, et à une majorité qui d'ailleurs était relativement confortable, puisque je crois qu'il a eu 6 points d'avance. Et alors, ce qu'on voit là-bas, c'est que les questions économiques qui devraient jouer contre lui ne joue pas nécessairement contre les républicains. D'une part parce que dans l'électorat populaire, il y a cette idée que quelqu'un qui défend une position très unilatéraliste sur les questions internationales risque d'être plus protectionniste que quelqu'un qui fait sans cesse appel à la communauté internationale, comme John Kerry et comme les démocrates. Et quand vous êtes dans un État traditionnel qui dépend d'industries menacées, cette notion d'unilatéralisme est parfois associé avec le protectionnisme, et c'est une conception relativement populaire. Et par ailleurs, dans un État comme celui-là, les écologistes ne sont pas très populaires. Lorsque vous exploitez le charbon ou lorsque vous dépendez de l'exploitation du charbon, il y a toujours cette idée que les réglementations mises en place, souvent à la suite des pressions du travail militant des écologistes, risquent d'aboutir à ce que vous perdiez votre emploi quelques années plus tard. Donc même sur ces questions économiques, le travail des démocrates n'est pas toujours facile et s'y ajoute évidemment toute une panoplie de questions de sociétés diverses, dont notamment celle de la possession des armes à feu, très populaire en Virginie-Occidentale où beaucoup de gens chassent. Et il y a le sentiment, tout à fait légitime d'ailleurs, que George Bush, lui, est favorable à l'absence totale de réglementation. Il l'a d'ailleurs prouvé, puisque maintenant, les armes de guerre redeviennent en vente légale depuis quelques semaines. Puis vous ajoutez à ça les questions de l'avortement, les questions du mariage homosexuel, les questions des valeurs traditionnelles. Et il y a un électorat populaire qui est sensible au discours moraliste de Bush. Et... autre chose qui me paraît très importante, c'est que ce qu'on reproche le plus à Bush en Europe, c'est-à-dire son absence de sophistication, son absence de vernis culturel, son absence de connaissance des cultures étrangères, est souvent là-bas perçu comme un atout, puisque ça le rapproche de groupes qui, eux, non plus, n'ont pas ce vernis culturel, n'ont pas cette connaissance des cultures étrangères, n'ont pas cette sensibilité aux modes européennes. Et lorsque vous entendez un discours de Bush, il reprend une technique qui avait déjà été une technique utilisée par Reagan, qui consiste à dire, non pas « je pense que », mais « vous et moi, nous pensons que ».« Vous et moi, nous pensons que ». Alors, et évidemment, ceux qui ne pensent pas comme vous et moi, ce sont les élites, souvent les élites démocrates, intellectuels, universitaires, journalistiques, qui vivent à Washington ou à New York ou sur les côtes et qui sont très sophistiqués, mais qui sont dans un autre monde, qui ne sont pas dans notre monde.
Qui mangent des sushis et qui roulent en Volvo.
Voilà. Et qui roulent en Volvo. Oui, c'est le vous et moi. Vous et moi, nous pensons que. Et j'ai trouvé qu'il y avait un moment où cette utilisation, cette technique était particulièrement remarquable. Quand George Bush attaquait ce qui est sa faiblesse principale, qui est le fait que naturellement ses politiques fiscales se sont traduites par une baisse très sensible des impôts payés par les plus riches. Et l'un des objectifs principaux de Kerry serait d'augmenter les impôts que paient les plus riches. Comment George Bush sentir-t-il quand il s'adresse à un public populaire? On peut imaginer que la question va être difficile. Eh bien, voilà ce qu'il fait. Il leur dit, vous voyez, John Kerry dit qu'il va augmenter les impôts des plus riches. Mais vous et moi, on sait ce que ça veut dire, hein? Silence, les gens ricanent. Oui, on sait ce que ça veut dire. Les plus riches, ils paient jamais plus d'impôts. Parce que les plus riches, ils font appel au concours d'un avocat, d'un spécialiste en droit fiscal. Et qui se retrouve à payer l'addition? Vous. Et là, il y a quand même une espèce de ruse, enfin, d'hypocrisie extraordinaire, puisque naturellement, ce sont les républicains qui ont le plus contribué à ce que les plus riches payent de moins en moins d'impôts et bénéficient de plus en plus de niches fiscales qu'ils utilisent naturellement à fond grâce au concours des avocats fiscalistes. En d'autres termes, en ciblant un certain nombre de professions qui sont associées au Parti démocrate, les artistes, les avocats, les intellectuels, les journalistes, George Bush, dont les politiques n'ont cessé de favoriser les plus riches, semble s'associer aux catégories les plus menacées, les plus pauvres, aux catégories ouvrières et aux petits employés. Et la vérité, c'est que dans un État comme la Virginie-Occidentale, mais aussi ailleurs, ça marche, puisque ce sont souvent dans les États les plus pauvres que la popularité des républicains et de ce discours-là, de ce discours populiste de droite, poujadiste, traditionnaliste sur les questions religieuses, qui insiste sur le droit de posséder des armes à feu, a le plus d'impact.